Alors, je vous propose d'ouvrir la parole dans l'évangile de Marc, chapitre 7, à partir du verset 1. Évangile de Marc, chapitre 7, verset 1. Les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. » On va relire ce verset. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Amen. Et un second texte. Dans le livre des psaumes, psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Voilà, ce soir nous allons parler surtout de sincérité, mais nous allons aussi parler un petit peu d'hypocrisie. Ce sont deux sujets qu'on retrouve dans les deux passages que nous avons lus, deux sujets qui s'opposent. Et deux sujets très importants, spirituellement, très importants pour notre relation avec Dieu. Donc on a deux versets, donc je relis le verset 6 de Marc chapitre 7. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. » Et le psaume 145, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » On a là deux versets qui sont opposés, deux versets qui quelque part se télescopent. D'un côté, on a des hypocrites, qui parlent, qui honorent des lèvres et qui sont éloignés de Dieu. Et de notre côté, on a des personnes sincères qui invoquent, et non pas qui honorent des lèvres, qui invoquent, ça amène une notion plus profonde. Invoquer, c'est demander par la prière à Dieu son intervention. Et la parole dit que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. On voit bien là qu'on a deux attitudes complètement différentes. Et que Jésus réprime, puisqu'il parle très durement aux pharisiens. C'est une question centrale, cette question de sincérité, parce que, quelque part, c'est ce qui ressort de notre cœur lorsque nous nous plaçons devant Dieu. Les pharisiens, eux, étaient basés sur la loi. Ils étaient, quelque part, légalistes. Et ce que Jésus leur reprochait, finalement, c'est de placer cette loi avant la révélation divine. Et quelque part, c'est de cette façon-là que Jésus leur disait que vous êtes des hypocrites. Et quelque part, il leur dit, vous n'aimez pas Dieu. Si vous aimiez Dieu, vous placeriez la révélation divine avant vos traditions humaines. Alors, il y a des traditions qui sont très bonnes. Hein, et Jésus, d'ailleurs, ne réprime pas toutes les traditions, loin de là. Il y a des habitudes qui sont très bonnes. Je ne pense pas que se laver les mains avant les repas soit une mauvaise chose. Donc, si vous le faites, continuez, c'est très bien. Faire la vaisselle, c'est très bien aussi. Je pense que c'est une bonne habitude. Voilà, c'est pas du tout le propos de Jésus. Le propos de Jésus, en fait, c'est de dire que une tradition est mauvaise à partir du moment où elle entre en conflit avec la parole de Dieu. À partir du moment où, dans notre relation avec Dieu, nous mettons la tradition, le respect de principes humains avant l'intérêt de Dieu, à ce moment-là, nous sommes à côté de la volonté de Dieu, qui est que nous soyons sincères et que nous soyons sauvés. Voilà, donc il est important de rechercher cette notion de sincérité, c'est une notion qu'on doit rechercher, et on va voir ce soir que cette sincérité, elle est importante parce que Dieu nous la demande. Alors tout d'abord, on peut se poser la question, c'est quoi la sincérité ? Mais la sincérité, c'est déjà, on l'a dit, le contraire de l'hypocrisie, donc là on a deux vertus qui s'opposent. L'hypocrisie, c'est un mot qui vient du latin, hypocrisis, et à l'époque c'était un mot qui était utilisé pour désigner les faux-semblants. Les faux-semblants et notamment les acteurs qui, dans l'Antiquité, jouaient des pièces de théâtre. Le mot trouve son origine là-dedans. Donc, il y a bien cette notion de, quelque part, j'ai une apparence extérieure, je joue un rôle, mais à l'intérieur, c'est différent. Jésus donne une définition, quelque part, de l'hypocrisie dans Matthieu 23, versets 27 et 28. Il dit « Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Donc il y a une notion, là, on voit bien déjà dans l'hypocrisie, une notion de façade et une notion d'intérieur. Apparence extérieure et réalité intérieure. Une notion, quelque part, de lumière, ce qui est en lumière et ce qui est plus dans l'ombre. La sincérité a une origine aussi latine, donc il y a un mot qui s'appelle sincerus en latin, qui est composé d'un préfixe sin, S-I-N, qui trouve son origine dans une racine indo-européenne sem, S-E-M, qui évoque la notion d'unité, ensemble, unité. Et le préfixe serus vient du latin serré, C-E-R-E, qui s'apparente au mot crescere, crescere, croissance, croissance, pousse. Cela voudrait dire, donc, si on prend cette étymologie, que la sincérité, c'est une croissance, une pousse. Cette image est intéressante et elle m'a rappelé un passage dans l'évangile de Marc au chapitre 4, verset 26. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Cette notion de sincérité, elle se révèle à partir du moment où dans nos cœurs, nous acceptons la présence du Saint-Esprit, nous acceptons Jésus. Et à ce moment-là, il va se passer un changement, qui va être d'abord un changement intérieur, puis un changement extérieur. Et cette notion de sincérité, elle prend toute sa dimension dans notre relation avec Jésus à partir du moment où dans notre cœur, nous avons une sincérité envers le Seigneur. J'ai trouvé un deuxième sens étymologique pour le mot sincère qui vient toujours du latin. Alors, première partie, sine, S-I-N-E, qui signifie sang, et deuxième partie, sera, C-E-R-A, qui signifie la cire. La cire qu'on utilise par exemple pour les bougies. Sans cire. Alors, cette étymologie trouve son sens dans le fait que dans l'Antiquité, il y avait beaucoup de sculpteurs et quand ils réalisaient des statues, parfois celles-ci pouvaient se casser. Et donc les vendeurs de statues, puisque les statues se vendaient tout autour de la Méditerranée, et les vendeurs de statues, quand la statue était cassée, ils recollaient le morceau cassé avec de la cire, parce que ça ne se voyait pas. Et donc ils vendaient la statue, faisant croire à l'acheteur qu'en fait elle était en bon état. Et puis quelques temps après, le temps faisant son œuvre, eh bien, la statue perdait le morceau qui était cassé à l'origine, et on découvrait la supercherie. Voilà. Et donc la vente d'une statue sincère, c'est-à-dire sans défaut, une œuvre parfaite, était parfois garantie par les vendeurs. Et donc sincère a trouvé son origine aussi dans cette signification. Donc on a deux significations pour ce mot qui sont intéressantes par rapport à ce qui nous intéresse, à savoir notre relation avec Jésus. À la fois cette notion de croissance de notre spiritualité, de notre relation avec Jésus, et à la fois cette condition indispensable quand nous nous plaçons devant le Seigneur, d'avoir un cœur parfait, d'avoir une œuvre, que Jésus ait fait une œuvre parfaite en nous. Il y a un point qui est important à prendre en compte, c'est que la parole nous dit que Jésus connaît parfaitement nos cœurs. Et le prophète Jérémie, au chapitre 17, verset 10, nous dit « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et Hébreux 4, 13 nous dit « Que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Cette notion-là, elle est importante aussi. Dieu sait tout de nous. Et à partir du moment où nous lui avons donné notre cœur, nous sommes en communion avec lui. Mais même celles et ceux qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus sont ses créatures. Et il les connaît. À plus forte raison, nous qui sommes chrétiens, quand nous nous plaçons devant Dieu, nous devons le faire dans une démarche de sincérité. Parce qu'il ne faudrait pas que notre manque de sincérité devienne un mensonge. On ne peut pas mentir à Dieu. Dieu connaît tout de nous. Donc il y a un sujet sur lequel nous devons là prêter attention. Le prophète Jérémie dira que le cœur de l'homme est tortueux. Naturellement, notre cœur humain n'est pas sincère. Notre cœur humain n'est pas bon. Il est bon parce que Dieu fait son œuvre en nous. Il est bon parce que le Saint-Esprit va venir nous habiter et va planter une semence qui va croître et nous allons aller vers cette sincérité. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5, il est dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant très longtemps, presque inconsciemment, j'ai pensé que mon cœur, c'était un endroit caché en moi, que c'était un endroit inaccessible, en fait, que moi seul connaissais, dont moi seul connaissais le contenu, et que, dont moi seul connaissais les pensées, que c'était un endroit caché, inaccessible. Et en fait, quand la parole nous dit que Dieu est lumière, eh bien, elle nous révèle que le cœur n'est pas en fait un endroit si sombre, un endroit si reculé, un endroit si inaccessible, en tout cas aux yeux de Dieu. Toujours dans 1 Jean, chapitre 1 et au verset 7, juste un peu plus loin, il est dit que « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Donc en fait, c'est tout le contraire. Notre cœur devant Dieu, il est dans la lumière. Ce qu'il y a dans notre cœur, nos pensées, le fait que nous soyons sincères ou pas envers le Seigneur, est complètement exposé à la lumière de sa parole. Donc si je devais donner une définition à la sincérité, je dirais que c'est développer une relation authentique avec Jésus, en tout cas chercher à développer une relation authentique avec Jésus, en acceptant le Saint-Esprit dans notre cœur parce qu'il va faire son œuvre, afin de vivre dans la lumière avec Dieu. Et c'est là qu'on va trouver tout le bénéfice d'une relation sincère avec Dieu. On peut se poser la question de pourquoi Dieu en fait, nous demande un amour sincère. Il pourrait se contenter d'un amour superficiel, un amour de temps en temps, un amour humain, quoi. En fait, c'est très simple, c'est que Dieu est notre Père, il est notre Créateur, et il nous a créés par amour, il nous aime. Et il a donné son Fils également par amour pour nous. Et Jésus est mort sur la croix pour nous. Jean 14, 6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ne nous dit pas « Je suis un chemin possible » ou « je suis une option ». Mon chemin est une option. Ce n'est pas ce qui est dit. C'est « Je suis le chemin ». Le chemin. Il n'y a pas deux chemins. Il y a un bon chemin. C'est Jésus. Amen. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc en retour, Jésus exige de notre part un amour sincère, une adoration sincère et un respect sincère de sa parole. Donc le chemin, c'est une notion importante. Il nous faut nous assurer qu'on est sur le bon chemin. Il y a des façons de le faire, on va en parler. Mais il nous faut nous assurer constamment que nous sommes sur le bon chemin. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ennemi en face de nous, un ennemi qui se joue de nous, un ennemi qui est là pour nous tromper. La Bible dit qu'il vient en habit de lumière, il est très habile pour nous faire croire que c'est la bonne direction, alors qu'en fait, nous pourrions sincèrement prendre le mauvais chemin. J'ai lu un article dans la presse qui m'a rappelé un petit peu ce principe de prendre sincèrement le mauvais chemin. C'est une touriste, ça s'est passé en 2023, donc c'est une touriste qui était en vacances à Hawaï. Donc c'est plutôt sympa comme vacances. Donc elle était en vacances à Hawaï, et puis elle avait un véhicule de location pour faire ses déplacements. Et donc elle circulait et elle avait allumé son GPS, elle avait indiqué la destination à laquelle elle voulait se rendre. Et donc elle suivait aveuglément le GPS. Et donc en fait, il s'est trouvé que le GPS l'a conduit dans un chemin qui était en fait une rampe de mise à l'eau pour les bateaux. Voilà, donc elle a avancé tranquillement sur cette rampe de mise à l'eau. Elle a avancé dans l'interview après l'événement, donc elle explique qu'elle a bien vu qu'il y avait de l'eau. Mais elle a pensé que c'était une flaque. Alors peut-être qu'elle est un peu dans l'obscurité, elle n'a pas bien vu, elle a pensé que c'était une flaque. Donc elle a avancé, et ce qui devait arriver, arriva. Donc la voiture est rentrée complètement dans l'eau, et elle s'est retrouvée avec sa voiture au milieu des bateaux. Donc l'histoire finit bien, c'est-à-dire que la dame a pu sortir de son véhicule indemne. Mais si j'en reviens à notre sujet, cette dame, elle conduisait, et de façon très sincère, elle avait placé sa confiance en son GPS, et elle s'était dit... Elle ne s'était jamais imaginé en fait, que le GPS pourrait la conduire dans le port, tout bêtement. Voilà, donc il y a un intérêt, je pense, c'est essentiel, à ce que quotidiennement, parce que là on parle d'une petite chose du quotidien, Mais parfois, on a des décisions plus importantes à prendre. Parfois, il y a des directions plus importantes à prendre. Il y a des choix primordiaux à faire dans notre vie. Des choix du quotidien comme des choix de vie. Et en fait, sans le savoir, ou parfois en pensant faire bien, enfin, en pensant faire le bon choix, pour des raisons qui sont souvent en lien avec le fait qu'il y a un ennemi en face qui veut nous faire sortir du bon chemin, eh bien, on peut se tromper. Et on peut se tromper sincèrement. Donc, il n'y a que deux voies. Il n'y a que deux voies, Jésus et puis la mauvaise voie. L'autre voie, c'est le péché et la mort au bout du chemin. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité » parce que c'est par un cœur sincère que nous allons nous accorder avec le cœur du Père. Jean 1, chapitre 1, verset 7 nous dit, je le cite de nouveau, « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et donc nous sommes dans la vérité. » Donc cette notion de communion avec Dieu qui passe par une sincérité de cœur, elle est indispensable. Et Jésus est la vie. Dieu est notre Père, on l'a dit, il nous aime, il veut nous amener à lui, à la vie éternelle. Il a donné Jésus, son Fils, dans ce but-là. Et Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus nous demande de le chercher, Jésus nous demande de chercher à le connaître avec sincérité, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors j'ai dit, quand on avait parlé de sincérité, beaucoup, mais un petit peu d'hypocrisie aussi. L'hypocrisie, elle est présente dans la Bible, dans pas mal de situations. Et c'est intéressant de regarder, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on s'approche de Dieu avec un manque de sincérité. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, et à chaque fois, les conséquences, elles sont graves, et elles sont irréversibles pour les personnes qui sont concernées. Elles sont, en tout cas, graves pour leurs âmes. Le prophète Amos, au chapitre 5, versets 21-23, dit, donc c'est l'Éternel qui parle par l'intermédiaire d'Amos et qui s'adresse au peuple d'Israël qui s'était détourné de Dieu, qui vouait des cultes aux idoles. Et donc Dieu leur dit, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très fort. Dieu parle de façon très claire. En fait, Dieu désire uniquement l'adoration et la prière de ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Il approuve les enfants, ses enfants qui font preuve d'un amour et d'une adoration sincère et qui recherchent une vie pieuse. Mais à l'inverse, et c'est ce que nous dit quelque part ce verset, c'est que Dieu ignore l'adoration et la prière de ceux dont le cœur n'est pas sincère, de ceux dont le cœur n'est pas tourné vers lui. Et il réprouve aussi ceux qui font preuve d'un amour et d'une adoration d'apparence. Il le réprouve complètement. Et il réprouve d'autant plus ceux qui recherchent non pas une vie de piété, mais vont plutôt prioriser les plaisirs du monde. Alors, j'ai dénombré trois conséquences, en fait, qui sont un peu graduelles quand on manque de sincérité envers Dieu. Vous allez voir que, premièrement, on abandonne le commandement de Dieu. Deuxièmement, étant donné qu'on abandonne le commandement de Dieu, on est aveuglé spirituellement. Et la troisième conséquence, c'est la mort. C'est qu'on va trouver la porte du royaume des cieux fermée pour nous. La première conséquence, donc dans Marc chapitre 7, verset 8, donc c'est le texte qu'on a lu en introduction, Jésus finit son discours aux pharisiens en disant « Vous abandonnez les commandements de Dieu. Vous êtes hypocrites parce que vous abandonnez les commandements de Dieu. » Et quel est le plus grand commandement selon Jésus ? Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc si notre cœur n'est pas sincère, une des premières conséquences, c'est que nous abandonnons le plus grand commandement. Deuxième conséquence, dans Ésaïe 29, verset 11, il est dit, « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, « Lis donc cela, et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté. » Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire. » Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Là aussi, Ésaïe s'adresse au peuple de Jérusalem, au sacrificateur qui était dans le temple, aux faux prophètes, qui venaient dans le temple pour adorer, louer, chanter Dieu, mais leur cœur n'était pas consacré à Dieu. Et quand ils étaient sortis du temple, en fait, ils retombaient dans le péché, ils servaient des idoles, ils avaient une vie remplie de traditions et de rites religieux. Et donc, une fois que le culte d'adoration était terminé, ils partaient et ils recherchaient les plaisirs du monde. Et donc, ils étaient complètement aveuglés spirituellement. Et donc, la parole dit que pour ces hypocrites, la parole est comme un livre cacheté. C'est une conséquence terrible. C'est qu'en fait, c'est comme s'ils ne pouvaient pas ouvrir la Bible. Ou comme s'ils ne savaient pas lire. Ils vont lire des mots, mais ils ne comprendront pas la parole. La parole n'agira pas en eux. Et donc, en fait, cette deuxième conséquence, qui est manquer la révélation de Dieu pour nos vies, mais quelque part, c'est une punition très sévère. C'est une punition qui va durablement impacter nos vies négativement. Manquer la révélation de Dieu pour nos vies, c'est quelque part être perdu. Nous ne saurons pas où aller, nous ne saurons que faire. Quand nous aurons un choix à faire, comment pourrons-nous faire le bon si la révélation de Dieu nous est cachée? Et la troisième conséquence, dans Matthieu chapitre 7, versets 22-23, il est dit, c'est Jésus qui parle, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi » à des serviteurs qui se prévalaient de Jésus, qui disaient avoir réalisé même des miracles pour lui. Et Marc 7, verset 7, nous dit « C'est en vain qu'il m'honore ». Et donc Jésus dénonce clairement le comportement de tromperie, donc je disais même de la part de personnes qui auront pu faire des miracles en son nom. Ce qui veut dire qu'une bonne relation avec Jésus, ce n'est pas nécessairement faire des exploits, faire des choses qui, aux yeux des hommes, vont être retentissantes, qui vont nous apporter du succès, nous apporter de la réputation. Non, ce n'est pas du tout ça. La relation avec Dieu, elle est ailleurs et elle est dans notre cœur. Et au verset 21, Matthieu 7, 21, il est dit « Donc ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Donc la troisième conséquence, c'est celle-là. Nous n'entrerons pas tous dans le royaume des cieux si nous n'avons pas cette démarche de sincérité envers Dieu. Dans Acte 5, il est raconté l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous pourrez relire, mais en fait, cette histoire suit le même cheminement. Au départ, il y a un abandon de leur part du commandement. C'est-à-dire qu'ils vont vendre tous leurs biens et au lieu de donner tout l'argent à l'église, ils vont en garder une partie. Ils sont victimes d'aveuglement spirituel parce qu'ils ont placé l'argent prioritairement avant Christ. Et la conséquence pour les deux, c'est la mort et la porte du royaume des cieux qui est fermée. Voilà. Donc sans sincérité, il n'y a pas de révélation ni d'accès au royaume des cieux. Alors comment aimer Dieu d'un amour sincère? On peut se poser la question, même si on peut aussi se dire que c'est naturel. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est notre être naturel qui s'exprime, puisque nous sommes enfants de Dieu, que nous avons une relation innée avec lui. Mais malgré tout, on peut donner quelques conseils pratiques. On peut donner quatre moyens concrets pour essayer de progresser dans cette démarche de sincérité. Premier moyen, c'est très simple, c'est prier. Jérémie 24, verset 7 nous dit « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Dieu nous donne tout gratuitement. Tout n'est que grâce avec Dieu. Le salut nous est donné par grâce. Un cœur sincère, c'est un don de Dieu. Mais il y a une condition. Et la condition, c'est, dans ce verset, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Pas avec la moitié du cœur, pas avec 99% du cœur. Non, Dieu veut tout notre cœur. Le deuxième moyen, c'est chercher la volonté de Dieu. Le psaume 139, verset 23, nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » On retrouve là encore une fois cette notion de « conduis-moi sur la voie de l'éternité », cette marche avec Dieu. Et cette notion de sincérité nous accompagne tout au long de notre vie, de notre marche avec Dieu. Nous sommes appelés à faire les choses non pas par orgueil ou par envie, mais Colossiens 3 nous dit « Faites tout au nom du Seigneur Jésus ». Donc nous sommes appelés à être humbles devant Dieu, à lui présenter nos cœurs. « Sonde-moi, ô Dieu, parce que c'est toi qui vas me dire. Sonde-moi, ô Dieu, parce que peut-être que je suis aveuglé. Sonde-moi, ô Dieu, parce que j'ai fait un choix ou je suis sur le point de faire un choix, mais est-ce que c'est le bon ?» Donc par humilité, Seigneur, je te présente mon cœur, je te présente mon projet, je te présente le choix que j'ai à faire. Éprouve-moi, connais mes pensées et dis-moi si je suis sur la bonne voie. Troisième moyen, c'est écouter Dieu. Ecclésiaste 4, 17 nous dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. » La parole là s'adresse à nous qui sommes chrétiens. Quand nous venons dans la maison de Dieu, pourquoi venons-nous ? Est-ce que nous venons à la rencontre du Seigneur avec respect ou est-ce que nous venons de façon insouciante ? En fait, on vient, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un appel ici à nous préparer spirituellement avant d'entrer dans la maison de Dieu, à venir et être prêt à écouter ce qui est dit. Approche-toi pour écouter. Et Dieu est près de ceux qu'il invoque avec sincérité. Et un quatrième moyen, c'est tout simplement d'obéir à Dieu. Matthieu 22, 37 nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » On l'a dit, c'est le plus grand commandement. L'obéissance à la vérité, c'est ce qui produit la purification de nos âmes. Et notre objectif, c'est d'arriver au 100% de sincérité. S'il y a en nous une part d'hypocrisie devant Dieu, bien présentons-lui notre cœur et demandons-lui de nous montrer comment arriver au 100%. Donc il y a ici un commandement de Jésus à l'aimer sincèrement. Prier, chercher la volonté de Dieu, écouter, lui obéir. Si nous voulons rester sincères dans notre relation avec lui, c'est ce que la parole nous conseille. Voilà, nous allons rendre grâce à Dieu pour ses paroles, pour ce message, et lui demander de nous guider encore ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Seigneur, elle est la vie, elle est la vérité pour nous. Seigneur, merci pour ta parole parce que, oui, elle nous guide, Seigneur. Merci parce que nous avons besoin de ta parole pour nous éclairer. Nous avons besoin de ta parole pour chercher ta volonté. Nous avons besoin de ta parole pour progresser. Nous avons besoin de ta parole pour grandir comme cette pousse de sincérité, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te présentons nos cœurs, Seigneur. Viens habiter dans nos cœurs, Jésus. Viens développer cette sincérité qui est en nous, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi, non pas comme des étrangers, Seigneur, mais nous voulons nous approcher de toi comme tes enfants. Nous voulons nous approcher de toi comme tes enfants parce que nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te présenter nos cœurs sincères, Seigneur. Nous voulons te présenter une adoration sincère, Seigneur. Nous voulons que tu fasses ton œuvre en nous, Seigneur. S'il y a des choses dans ce monde qui nous retiennent, Seigneur, qui nous tirent vers le bas, Seigneur, et qui nous empêchent d'aller plus vers toi, Seigneur, nous te demandons de briser ces chaînes, Seigneur. Nous te demandons d'agir dans nos vies pour que nous puissions tourner nos cœurs intégralement vers toi, Seigneur. Sois loué, sois béni, Père, à toi toute la gloire. Amen.